cours de philosophie éthique par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 13 septembre 1995.
Cette année-ci, nous voyons l'éthique dite chrétienne. Ce n'est pas, on l'expliquera petit à petit, ce n'est pas la théologie, c'est le regard du philosophe sur Jésus en tant qu'il nous est connu par l'histoire, en tant que lui-même est connu à travers ses disciples, à travers les évangiles, les épîtres, les actes des apôtres. Voyez, les philosophes grecs ont parlé de Socrate, ont parlé d'Épictète, qui n'ont rien écrit, mais sur le témoignage de leurs disciples. Et on peut parler d'une éthique socratique. On peut parler d'une éthique chrétienne. C'est évident qu'il faut bien distinguer ce regard philosophique du regard théologique. Constamment, je vous montrerai la différence pour que vous voyez bien. Mais je crois ça très important dans notre monde d'aujourd'hui. Oui, on ne supporte plus aujourd'hui des apologétiques. Au début du siècle, il y a eu comme ça des apologétiques chrétiennes. Il y a eu des apologétiques par rapport à Socrate. Elles étaient faites par Platon. Quand une apologétique est faite par un génie, c'est autre chose. Mais quand elle est faite par un soufif, ça va pas du tout. C'est pire que tout. Ça fait écarter de la réalité. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, et je crois que c'est très nécessaire, d'avoir un regard philosophique sur la personne de Jésus. On essaiera de voir ça. Donc, cette éthique chrétienne fait partie de l'éthique tout court, l'éthique philosophique. Et on verra pourquoi. Il y a de fait trois niveaux à l'éthique. Et ce sera très intéressant de bien préciser ces trois niveaux au point de vue philosophique. J'en suis de plus en plus persuadé qu'il faut ces trois niveaux. Vous voyez, Bergson avait distingué une morale fermée et une morale ouverte. C'est intéressant de savoir ça. Et c'est intéressant pour nous, au point de vue historique, donc, vous voyez, premier chapitre qui pourrait être fait pendant toute l'année. Une topic historique sur l'éthique. Comment est née cette philosophie morale, cette philosophie éthique? Comment est-elle née? Historiquement, elle naît à partir de Socrate. Socrate est le père de l'éthique. Connais-toi toi-même et les dieux. Premier, c'est Socrate. Or, vous savez bien, vous l'avez entendu dans parler. Démosthène, Socrate capitaine. Vous avez peut-être quelque chose, mon capitaine Socrate. C'est quand même quelque chose de particulier. Et puis, le Socrate à Athènes, qui a comme disciple Platon. Alors, évidemment, dialogue de Platon, c'est la République, c'est l'éthique politique, de la politique. Il y a toujours ça. Et on voit que tous les gouvernements socialistes s'occupent en premier lieu d'éducation. De telle manière que l'éducation devient la chose la plus monstrueuse. Au point de vue politique. La plus monstrueuse, c'est-à-dire la plus grande, la plus importante, elle prend tout. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en France. C'est une chose très étonnante. Parce que c'est la destruction de la famille. Il n'y a pas de famille, de philosophie de famille. Et c'est toujours la païdéia, donc socialisme. Donc ça, c'est un problème extrêmement important. Pour comprendre ce que c'est que la politique, il faut d'abord faire l'éthique personnelle. C'est ce que nous allons faire, l'éthique personnelle. Et il y a l'éthique politique qui est très importante, mais qui est seconde. Si on n'a pas fait l'éthique personnelle avant, on ne peut rien comprendre à la politique. Sauf si on a une éthique machiavélique. Sauf si on a une, je veux dire, une politique machiavélique. Le prince de Machiavel, il faut avoir lu dans ses études de philosophie Le prince de Machiavel. C'est tellement actuel. C'est extrêmement intéressant de voir ces problèmes-là et de les voir au plan philosophique, sans passion. Peut-être passionné pour la politique, mais il faut avoir un œil philosophique sur la politique pour la comprendre pleinement. Et c'est toujours le point de vue de l'homme. L'homme est-il premièrement politique ou est-il premièrement quelqu'un qui a son propre bonheur? Le bonheur est-il politique ou est-il premièrement personnel? Et entre les deux, la place de la famille. Vous voyez, là, il y a des problèmes extrêmement intéressants et actuels. Alors, en philosophie grecque, l'avantage, c'est qu'ils sont à l'état très pur. Immédiatement après Aristote, on va voir des éthiques qui se rattachent, soi-disant, à Socrate, et qui ont des modalités très différentes. Il y aura l'éthique stoïcienne. C'est une éthique très particulière. Elle est aussi premièrement politique. Mais à la différence de celle de Platon, c'est qu'elle est politique dans le sens de l'efficacité. Et non pas du tout une éthique premièrement contemplative. Il n'y a plus de contemplation chez les stoïciens. C'est une éthique volontaire. D'un volontarisme très fort. Il y a des choses grandes, très grandes dans l'éthique. Et dans l'éthique stoïcienne, le dernier sera l'éthique d'Épictète, qui était enseignée à Rome en l'an 50. Donc, juste après, au début du christianisme. L'éthique stoïcienne, l'éthique du devoir. Il faut faire ça. Kant est un succès d'année du stoïcisme. Je dis un succès d'année parce que le stoïcisme est plus grand que Kant. Puis vous avez l'éthique diamétralement opposée, l'éthique épicurienne. L'éthique épicurienne, c'est l'éthique de la jouissance. C'est très étonnant de voir que quand on est dans les éditions épicuriennes, parce qu'il y a des éditions épicuriennes, on date les livres à partir de la naissance d'Épicure. C'est assez étonnant. Je n'ai vu ça que pour Épicure. Tellement on considère qu'Épicure était un sage. Donner à l'éthique quelque chose de très nouveau. Un regard très important. La hiérarchie épicurienne de l'éthique, c'est là où il y a le plus de plaisir. Et en fond, on maintient la contemplation parce que c'est elle qui accorde le plus grand plaisir. Il n'y a pas du tout la suppression de la contemplation, mais la contemplation existe à quoi? monde. Platon non plus n'a pas écrit. Et il a eu des disciples qui ont écrit les entretiens, qui sont venus avec lui. C'est une philosophie. Vous voyez, c'est curieux. Quand on regarde le développement de la métaphysique, tout de suite la métaphysique a atteint un sommet. Mais très vite, elle a disparu. Il n'y a pas de métaphysique pour un stoïcien, il n'y a pas de métaphysique pour un épicurien. La métaphysique pour les néo-aristotéliciens et pour les néo-platoniciens non plus. C'est très curieux. La scolastique, la philosophie première, la métaphysique, a eu un moment. L'éthique, au contraire, elle a pris des formes différentes. Et je crois qu'on peut regarder ces cinq formes de l'éthique. De fait, et c'est intéressant de voir que l'éthique a pris ces cinq formes, ces cinq modalités. L'éthique, ensuite, avec le christianisme, une éthique chrétienne autour de Jésus. L'éthique chrétienne est reliée à un homme qui est Dieu, qui se dit Dieu. Et l'éthique chrétienne alors représente une modalité de toutes les autres, qui d'une certaine manière, et c'est ça qui serait intéressant à voir, d'une certaine manière, saisit ce qu'il y a de meilleur dans ces cinq modalités éthiques. Ça, c'est pas apologétique, c'est une constatation. Si on peut, on le fera. Il faudrait beaucoup ça. Humaine. Et elle est humaine. Elle a une dimension qui dépasse toutes les autres éthiques humaines. Elle a quelque chose de très particulier. C'est ce que nous essaierons de comprendre. À partir du christianisme, l'éthique s'est développée à partir de la foi. Dans la foi au Christ. Assumant des éléments de l'éthique stoïcienne, de l'éthique aristotélicienne, de l'éthique platonicienne et néoplatonicienne de Platon. Mais c'est surtout stoïcienne et néoplatonicienne, de fait, chez les pères de l'Église. Thomas d'Aquin a assumé l'éthique philosophique, qui est chrétienne, qui est théologale. Saint Thomas ne distingue pas, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, Saint Thomas ne distingue pas dans sa théologie l'aspect du dogme et l'aspect de la morale. Parce que tout est vu dans la lumière de la foi. La foi étant éminemment spéculative et éminemment c'est trop délicat, trop difficile. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une destruction de la morale. Pourquoi? Parce qu'on ne sait plus ce que c'est que la finalité. Ce qu'Aristote a découvert, c'est que la morale ne peut se comprendre que dans la finalité, c'est-à-dire à travers l'amour. Et saint Thomas a respecté ça pleinement. Dès que la finalité disparaît avec Don Scott, avec Occam, on ne sait plus très bien ce que c'est que la morale. Alors on prend des positions diverses. Et c'est vrai avec Descartes. On ne sait plus très bien ce que c'est que la morale. Alors on retrouve tout de suite après le grand moraliste, Kant. La philosophie kantienne est avant tout une morale. C'est ce qu'il y a de plus intéressant dans Kant. Sa morale du devoir, donc stoïcienne, néo-stoïcienne. Elle est née en terre chrétienne, mais en terre luthérienne. En terre catholique, on reste thomiste, sous des modalités très différentes, mais on reste thomiste. Faut pas oublier que saint Ignace demande à tous ceux qui seront ses disciples de suivre Thomas d'Aquin. Il l'a demandé. Donc ceux qui ne suivent plus Thomas d'Aquin ne sont plus dans les intentions du fondateur. Ben, c'est un fait. Il faut comprendre ça. Et c'est très important pour nous de comprendre que suivre saint Thomas, c'est entrer dans l'enseignement le plus profond de l'Église. L'Église ne condamne pas tout le temps. L'Église montre qu'au bout d'un certain temps, les déviations aboutissent à des positions anti-catholiques. Et c'est l'encyclique Splendor Veritatis qui montre cela de la manière la plus éclatante. Encyclique pour quelqu'un qui entre en éthique, en philosophie éthique, est très intéressant. Je vous demande pas de la lire en première année, mais en troisième année, oui. Il faut lire cette encyclique comme le pape se plaçant au-delà de la philosophie, au-delà de la théologie, montre toutes les déviations au point de vue moral qui aboutissent à des positions anti-chrétiennes, à des positions qu'un catholique ne peut pas accepter. Et il ne le montre pas au niveau théologique, mais au niveau de la foi. C'est ça qui est intéressant. Alors, évidemment, ce serait extrêmement intéressant de voir le sort de l'éthique à partir de Descartes jusqu'à Hegel. Ça, c'est très important, puisque c'est l'acte moral qui est au cœur de toute anthropologie. Or, vous savez que le premier qui a quitté curieux de voir ça. Et sûrement qu'au point de vue moral, au point de vue philosophie éthique, Kant joue un rôle extrêmement important. Très important. Parce que la morale du devoir, donc c'est la morale des gens bien pensants. On voit très bien ça. En France, ça a été Descartes, en Allemagne, c'est Kant. Et Kant est beaucoup plus impératif que Descartes. Parce que Descartes, c'est un peu flou. La morale de Descartes, c'est pas très net. Tandis qu'au contraire, celle de Kant est très impérative. Il faut faire cela. Tous les matins, vous vous réveillez avec « vous devez faire ça aujourd'hui ». Et dans votre raison, du matin, si vous êtes conscient, vous n'avez qu'un seul souci, de voir exactement ce que vous devez faire. Yeah. à l'activité artistique. Ça, c'est chez Nietzsche. Et alors, Nietzsche, c'est l'opposé le plus violent contre le point de vue, justement, de cette moralisation du devoir de Kant. Il faut voir les injures de Hegel et de Nietzsche par rapport à Kant. C'est très encourageant. Parce qu'on voit qu'il y a des boulets rouges contre Kant. Mais vous dites, c'est ça qui est intéressant. C'est que le problème moral est devenu au cœur de la philosophie. Parce qu'il n'y a plus de métaphysique. Et quand le point de vue moral est au cœur de la métaphysique, la morale se détruit. Elle-même. Alors, où elle tombe dans cette espérance du sur.